franceinter.fr.
À la une de la science, aujourd'hui, on s'intéresse à la formation des nouvelles espèces.
Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson grenouille. Et ce singe poisson grenouille a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous.
Voilà, l'évolution, alors très très schématiquement résumée dans le dessin animé South Park. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'apparition de nouvelles espèces est un phénomène dynamique, évolutif. Mais à partir de quand est-on sûr d'avoir affaire à une espèce ou une sous-espèce? Récemment, par exemple, on a appris qu'il existait 4 espèces de girafes, alors qu'on pensait qu'il n'y en avait qu'une seule. Alors, dans une étude parue aujourd'hui dans PLOS Biology, des chercheurs mettent en lumière cette zone grise à l'intérieur de laquelle le métissage est encore possible. Pour en parler, l'un des auteurs de cette étude est avec nous, Camille Roux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur spécialiste en génomique de l'évolution. Également avec nous par téléphone, Pierre-Henri Gouillon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste de l'évolution et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Camille Roux, les barrières entre les espèces étaient déjà assez floues. Votre étude vient montrer à quel point c'est complexe la différenciation d'une espèce.
Alors le processus en soi n'est pas complexe. La définition de l'espèce est plus complexe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas non plus associer le mot « nouveau » et le mot « espèce ». Pour faire vraiment deux espèces différentes, ça prend du temps et c'est un peu contradictoire. On ne peut pas du coup dire « nouvelles espèces ». C'est un processus qui est continu dans le temps, qui est très long et il faut attendre un certain temps. Et entre le moment où on a une seule espèce et au moment où on a deux lignées qui sont vraiment différentes, bien en effet, on a une sorte de flou où on a des espèces qui peuvent quand même faire des bébés dans la nature.
Agnès.
Oui, vous, ce que vous avez essayé de voir, en l'occurrence, c'est à partir de quel seuil il y a encore des échanges, du métissage entre des espèces très différentes, et au-delà de quel seuil il n'y en a plus. C'est un petit peu ça l'idée.
Alors, ce qu'on regarde, c'est en population naturelle, quand on prend plusieurs populations qui cohabitent, il y a des populations qui sont très proches biologiquement et des populations très éloignées, très proches biologiquement. Bah, ça peut être deux espèces d'huîtres, par exemple, qui sont ensemble. Et puis plus éloigné, ça sera les humains et les chats, où là, ça ne marchera pas. Et ce qu'on voit, c'est que jusqu'à 2 fois la différence entre un humain et un chimpanzé, on peut observer dans la nature des hybrides entre des espèces qui sont 2 fois plus divergentes qu'un humain et un chimpanzé.
Alors qu'il n'y a pas de possibilisation de faire des petits entre un chimpanzé et un humain, il y a des espèces plus divergentes du point de vue génétique qui, elles, parviennent à se reproduire.
Alors, il y en a qui ont essayé entre l'humain et le chimpanzé.
Et ils ont eu des problèmes. Ça n'a pas marché.
Il y a eu quelques tentatives au début du XXe siècle en Russie, mais c'était un faible nombre. Ce qu'il faut pas non plus se concentrer sur le cas de l'humain et de chimpanzé, parce qu'il y a eu plein de lignées qui ont disparu, qui ont dérivé de l'humain. Mais en effet, dans la nature, des espèces qui sont 2 fois plus divergentes, eux y arrivent.
Agnès.
Pierre-Henri Gouillon, cette zone grise à l'intérieur de laquelle il y a du métissage malgré de grandes différences, ça nous plonge au cœur de l'évolution?
Ben oui, c'est un phénomène extrêmement important, puisque évidemment, puisqu'on part d'une même espèce et puis que des populations vont diverger jusqu'au moment où elles deviennent suffisamment différentes pour qu'on ait envie de les appeler des espèces, il est évident qu'il va y avoir un moment où ça va être à déterminer. Et cette zone grise, comme disent les auteurs, je pense que c'est un phénomène très important. Darwin a beaucoup insisté là-dessus. S'il n'y avait pas de zone grise, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'évolution. Si jamais les espèces étaient toujours parfaitement définies et qu'il n'y avait aucune ambiguïté, ça voudrait dire qu'elles sont apparues depuis le début et que ça ne bouge pas. Donc en réalité, si on présente les espèces comme des éléments fixes, absolument bien séparés et parfaitement reconnaissables, eh ben on nie l'évolution. Donc faire reconnaître l'importance de l'existence de cette zone grise, ça me semble très très important, aussi bien au niveau d'ailleurs de l'enseignement. Quand on enseigne que les espèces, c'est des individus qui peuvent se croiser entre eux et pas avec les autres, et bien évidemment, on donne une vision très fixiste du monde vivant. Et puis aussi bien au niveau de la conservation, si jamais on décide qu'il faut conserver la biodiversité, et bien il y a sûrement des moments où il faut conserver des choses qui ne sont pas vraiment des espèces. Ça n'a aucune importance que ce soit vraiment des espèces ou si c'est des sous-espèces. Darwin lui-même avait vraiment insisté là-dessus en disant qu'il était essentiel que les naturalistes comprennent qu'au fond, la limite entre une sous-espèce et une espèce, ou entre une sous-espèce et une variété, ou entre des différences individuelles et des variétés, c'est-à-dire qu'il y a un continuum de différenciation.
Ce que vous nous dites, Pierre-Henri, c'est qu'en fait, la nature n'a que faire de nos classifications, de nos petites boîtes dans lesquelles on essaye de la ranger. Ce sont des processus continus et il n'y a pas forcément de barrières précises entre chaque être vivant sur Terre.
Non, mais comme le disait Camille tout à l'heure, évidemment qu'il y a un moment où les barrières deviennent très fortes. Et alors, il a parlé de chats et d'humains. Hein. Moi, je dis toujours qu'entre les éléphants et les fraises des bois, on sait que ça marchera pas. Mais il y a effectivement toujours une zone de flou. Et d'ailleurs, on découvre des échanges, puisqu'on parlait des chimpanzés et des humains, on découvre des échanges beaucoup plus tardifs que ce qu'on avait pensé au début entre les humains et les chimpanzés. Donc, effectivement, la nature fabrique des lignées qui, et c'est très important ce qui a été dit tout à l'heure, qui se différencient progressivement. Les espèces n'apparaissent pas. Les espèces se différencient progressivement. Mais en revanche, elles éteignent. Hein. Donc le processus est compliqué, hein, d'extinction d'un côté et puis d'apparition progressive de l'autre. Mais effectivement, nous, on a besoin de nommer les choses. Et évidemment, du coup, on fait une classification. Mais on fait une classification dans un phénomène de différenciation continue. Donc il y a des moments où notre classification, elle est ce qu'on peut. Hein, voilà.
Camille, justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cas ambigus où on observe des croisements entre des espèces très différentes ?
Bien, par exemple, en ce moment, c'est les fêtes de fin d'année, les Français mangent beaucoup, beaucoup d'huîtres. Et l'huître qu'on mange en France, elle a été introduite dans les années 70 du Japon. Et puis ensuite, elle a envahi les côtes atlantiques, sauf au Portugal, où il y avait déjà une huître qui était déjà présente. Et ces deux complexes, ces deux espèces d'huîtres-là, ce n'est ni la même espèce, parce qu'elles ont chacune leur propriété propre, mais ce n'est pas non plus deux espèces différentes, parce qu'on trouve fréquemment dans la nature des hybrides qui sont viables et fertiles. Et là où c'est intéressant, c'est que ces huîtres, elles sont presque aussi divergentes que l'homme et le chimpanzé. Alors se dire que dans la nature, il existe ainsi des échanges, des transferts de gènes entre deux lignées aussi divergentes, eh bien, comme dit Pierre-Henri, ça casse complètement l'image que nous avons du monde vivant, qui n'est pas un album Panini. Les espèces sont plus connectées entre elles.
On peut citer aussi les lions et les tigres. Hein, ça a été une surprise, quand on s'est rendu compte que les hybrides étaient parfois fertiles. Et puis on peut citer surtout, moi ce qui m'amuse beaucoup, c'est les chèvres et les moutons, qui sont pas seulement les mêmes espèces, mais qui sont pas dans le même genre, c'est-à-dire que c'est vraiment un niveau taxonomique encore au-dessus, et qui sont encore capables de faire des hybrides fertiles.
Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on nous apprend à l'école, que on définit par espèce des espèces qui ne peuvent pas se reproduire entre elles, ou en tout cas dont la descendance n'est pas fertile, c'est faux, faut se le sortir de la tête, Pierre-Henri Gouillon.
C'est un espèce d'idéal qui serait bien pratique. C'est souvent comme ça, dès qu'on prend des choses suffisamment éloignées, mais ça ne règle pas la question dans le détail. Et surtout, pour moi, c'est une présentation qui est anti-pédagogique parce qu'elle est anti-évolutionniste. Il ne faut pas donner une vision fixiste du monde. Hein. Si vous donnez une vision fixiste du monde aux enfants et qu'après, vous leur dites que finalement, ça a évolué, il est trop tard. Et puis, si en plus, il y a des bons apôtres qui sont venus leur dire qu'en réalité, tout ça, ça avait été créé une fois pour toutes, et ben, votre enseignement, il a fait exactement le contraire de ce qu'il fallait qu'il fasse.
Dernière question, Agnès.
Oui, une des particularités de votre travail, Camille, c'est d'avoir analysé ces divergences entre espèces et sous-espèces par l'observation de leur génome. Alors peut-être l'un et deux, si vous pouvez répondre très sommairement. Est-ce que c'est un atout, du coup, pour mieux les reconnaître, l'analyse génétique? Est-ce que c'est pas suffisant encore?
La particularité, c'était qu'avant, il y avait uniquement une seule paire d'espèces. Et là, grâce à ce projet avec l'Institut des sciences et l'évolution, c'est la première fois c'est la première fois où on a pu vraiment avoir des génomes d'autant d'espèces différentes et de vraiment voir quel est l'effet de l'âge de l'ancêtre commun, entre guillemets, de ces lignées, sur la possibilité de faire des bébés. Et ça, c'est uniquement grâce à l'effort de l'Université de Montpellier pour obtenir ces données génomiques. Alors qu'avant, c'était uniquement des cas par cas où chacun faisait sa cuisine sur son espèce.
Merci Pierre-Henri Gouillon et Camille Roux pour ces éclaircissements. Merci. Et Agnès, à demain.
À demain.